Une rencontre avec Michel Houellebecq et le musicien Frédéric Lot, une heure avec des disques, des poèmes, des questions parfois sans réponse et des livres.
Je me souviens même pas d'une période de ma vie où j'ai pas lu. Ça a dû exister, hein, mais je me revois toujours avec un livre. Aussi longtemps, aussi loin que je me souvienne, j'ai tout de suite aimé ça, quoi. Même pour aller faire la queue au supermarché, s'il y a une queue, je prends un livre, quoi. Même si c'est pour 2 minutes de queue. On l'a avec soi, enfin, c'est une sécurité d'avoir un livre.
Une sécurité?
Ah oui, sinon on est livré à la vie, enfin, c'est horrible. Avec un livre, on a toujours une échappatoire.
Il y a 26 ans, Michel Houellebecq publiait un premier disque, Présence humaine. Le titre du deuxième, qui paraît dans 15 jours, est à l'impératif. Souvenez-vous de l'homme. Ce sont les mots inscrits sur la pochette de l'album où l'on voit un bipède recouvert de poils au milieu d'un terrain vague avec des tours au loin. Entre la publication de ces deux disques, donc entre l'an 2000 et aujourd'hui, Michel Houellebecq a reçu le prix Goncourt pour La carte et le territoire. Il a produit des discours, source d'indignation, d'approbation, parfois d'action judiciaire, dont une plainte déposée puis retirée par le recteur de la Grande Mosquée de Paris après que Michel Houellebecq a exprimé des regrets. Il y revient d'ailleurs dans son dernier livre paru, Quelques mois dans ma vie, où il qualifie certaines de ses déclarations de trop rapides, voire de stupides. Aujourd'hui, en tout cas à mon micro, Michel Houellebecq déclare ne pas suivre l'actualité. Le disque qu'il publie est la projection d'un futur où l'humanité aura disparu. Ses poèmes, dont certains figurent dans un recueil à paraître, intitulé « Combat toujours perdant », ces poèmes, donc, sont magnifiquement mis en musique par Frédéric Lot. C'est lui, Frédéric Lot, qui est à l'initiative de ce disque. L'idée lui en est venue après une collaboration inaboutie avec Michel Houellebecq pour un hommage au chanteur, musicien et poète Daniel Darc. Frédéric Lot m'accueille chez lui, Michel Houellebecq arrive et sort de son sac à dos une pochette en plastique. Il en extrait un courrier où lui ont été transmises mes demandes pour Totemic. Choisir un texte pour une carte blanche, un tube et une voix qui a compté pour lui.
Totemic, Rebecca Manzoni, sur France Inter.
Alors, une voix, non. Il y a pas.
D'accord.
Parce que les gens qui m'ont inspiré, j'ai jamais entendu leur voix. C'est uniquement des écrivains, presque tous du 19e siècle. Pour les poètes, surtout, c'est dommage. J'aurais bien aimé savoir comment Baudelaire disait ses vers et tout ça, mais il n'y a pas.
Au cours de la conversation, on parlera peut-être de voix de musiciens. Ou de chanteurs.
Ah non, mais c'est moins important que les écrivains pour moi quand même dans ma vie. Il faut bien reconnaître. Faut être...
Quel est le poète que vous relisez le plus?
Je ne peux même pas dire que je le relis parce que j'ai l'impression de le connaître par cœur. Mais bon, pour moi, le plus grand, c'est Baudelaire. Définitivement.
Vous connaissez quel poème de Baudelaire par cœur vous connaissez?
Alors peut-être Sois sage, ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Tu réclamais le soir, il descend, le voici. Mais je suis pas suffisamment en forme là, pour le faire bien.
Pourquoi il faut être en forme pour le dire?
Oui, quand même, oui. Ça demande de l'énergie, hein. Bizarrement, ça a l'air de rien, mais voilà, celui-là, ce recueillement, je crois que je le connais par cœur, oui. Je connais peu d'adaptations musicales, finalement. Enfin, bon, je trouve pas que Baudelaire ait eu beaucoup de chance, si vous voulez. Verlaine a été mieux traité, je crois.
Gainsbourg l'a mis en musique.
Oui, c'est pas terrible. Je suis désolé, je viens de Gainsbourg, on est censé aimer, mais franchement, c'est pas terrible. Il y a un truc qui est très bien, par contre. Je vois qu'un seul exemple qui me plaît dans Baudelaire. C'est une chanson de Reggiani. La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans, n'est plus longtemps.
La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans, depuis longtemps.
Et avant la chanson, en fait, il chante pas, il dit.
Oui.
Un texte de Baudelaire, et là, il le dit magnifiquement.
Premier album de Reggiani, oui.
Il est magnifique, là, vraiment.
Si vous la rencontrez, bizarrement parée, traînant dans le ruisseau un talon déchaussé, et la tête et l'œil bas comme un pigeon blessé, messieurs, ne crachez pas de jurons ni d'ordures au visage fardé de cette pauvre impure que déesse famine a par un soir d'hiver contrainte à relever ses jupons en plein air. Cette bohème-là, c'est mon bien, ma richesse, ma perle, mon bijou, ma reine, ma duchesse.
Quand vous enregistrez, vous avez forcément un casque sur les oreilles,
oui.
Comme je l'ai en ce moment. Donc vous entendez votre voix.
Oui.
C'est quelle sensation et vous en pensez quoi ?
Je m'y suis habitué. Moi, j'ai un souvenir horrible de la première fois où j'ai entendu ma voix. C'était, je pense, dans une espèce de cours d'anglais où il y avait des choses qu'il fallait, il fallait se réécouter. Et je me disais, c'est moi ça ? Et j'étais horrifié, vraiment. Enfin, c'est bien pire que de se voir en photo pour la première fois, quoi.
Ah oui ?
Ah oui, mais en photo, ça allait, quoi. Je me trouvais bien, sans plus. Bon. Alors que ma voix, non. Maintenant, j'ai fini par m'y faire.
Quand est-ce que vous avez commencé à dire vos textes ? Vous l'avez fait très tôt, je crois.
Très tôt, oui, quand j'avais 20 ans. Bien avant de publier. C'est un art oral, hein, la poésie. C'est fait pour être dit, les textes. C'est pour ça que je disais, c'est bien dommage que les auteurs qui m'ont influencé, inspiré, j'ai jamais entendu leur voix. Ça m'aurait vraiment intéressé.
Dans l'album « Souvenez-vous de l'homme », les textes de Michel Houellebecq sont en rime, certains sont des alexandrins. Le poème qui ouvre le disque s'intitule « Le bleu du ciel central ».
Vers la fin d'une nuit, au moment idéal, où s'élargissant brille le bleu du ciel central, je traverserai seul, comme à l'insu de tous, la familiarité inépuisable et douce des aurores boréales.
Est-ce que vous pouvez vous rapprocher, Frédéric ? Puisque je vais commencer par vous interviewer tous les deux.
D'accord.
Les plus bas glisseront dans un chemin secret. La première rue banale.
Alors, est-ce que la musique, les mélodies, les arrangements, est-ce que vous les avez conçus, Frédéric Lau, en fonction de la voix de Michel Houellebecq ? Est-ce que la voix a été ce autour de quoi vous avez commencé à travailler ?
En fait, déjà, Michel parle.
Je ne connais pas bien l'étendue de la terre.
Oui, vous ne chantez pas.
Voilà, on n'a pas voulu que ce soit chanté parce que c'était comme une évidence, en fait. Et donc, quand vous avez une voix parlée, à la fois, il faut de la musique, mais à la fois, il ne faut pas qu'il y ait trop de musique aussi, parce que sinon... C'est très facile de faire des belles mélodies et que d'un coup, on perd le propos. Et puis, Michel a une voix très particulière.
Je ne connais pas bien l'étendue de la terre.
Très douce.
Ni la durée de mon voyage.
Donc, il faut essayer d'avoir suffisamment de matière musicale pour que vous soyez emporté dans la chanson, mais en même temps, en étant un peu en sous-régime pour pouvoir vraiment écouter le texte et la voix.
Dans quelques jours sûrement, il y aura la guerre. Vers l'est, le conflit se propage.
En même temps que paraît le disque, paraît aussi un recueil de poèmes qui s'intitule « Combat de perdants ». Les textes n'ont pas été écrits spécifiquement pour la musique, là.
Oui, non, on ne peut pas vraiment dire ça. Enfin, disons, il y a une partie des textes de l'album qui sont inédits. Mais cela dit, ils n'ont pas forcément la même forme dans le recueil de poèmes que dans le disque, quoi. Donc je les ai adaptés, en fait. Et il y en a d'autres qui ne sont pas du tout inédits, qui figurent dans des recueils précédents, où là aussi j'ai adapté, en fait, j'ai modifié les textes en fonction de la musique, en fait.
C'est la première fois que vous faites ça ?
Oui, parce que là, bon, j'ai fait un disque il y a longtemps, hein, c'était en l'an 2000, donc ça remonte vraiment. L'idée de modifier les textes n'était même pas venue. J'aurais probablement dû le faire, en fait, en y repensant. L'album aurait été meilleur si j'avais un peu modifié mes textes. Mais comme ça, ça ne m'est pas venu. Alors que là, je me suis dit, bon, ben, je vais faire quelque chose qui se rapproche plus de la chanson quand même.
Est-ce que vous vous êtes retrouvés tous les deux dans vos discussions sur des goûts musicaux communs ?
Oui, bien sûr. Moi, je savais que Michel, par exemple, aimait Neil Young. Mmh. Je savais qu'il aimait Lou Reed. En fait, quand je repense à la voix de Michel, moi, je suis vraiment conscient qu'il a beaucoup raconté ses textes et ses poèmes dès le début. Et en fait, ça se sent. En fait, il y a une musicalité de sa diction et une précision de sa diction. Et on aime beaucoup Lou Reed, c'est parce qu'il est à la fois, il est à la limite du chant et du parler.
Lou Reed, j'ai beaucoup aimé aussi parce que, contrairement à d'autres, il ne m'impressionnait pas.
Lou Reed ne vous impressionnait pas ?
Non, mais je veux dire l'affection plus que l'admiration, en fait. Ah ouais. Ben, je veux dire ce qu'il fait, oui, je peux le faire. Ben oui, Sweet Jane, j'aurais pu l'écrire,
ouais.
Par exemple. Standing in the corner, sweet kid in my hand, Jack and his... Enfin, etc. Je sais pas, oui, c'est un truc que j'aurais pu écrire. Oui. Avec quelque chose de quotidien, je sais pas. Bon, Iggy Pop, par exemple, m'a raconté... Bon, il savait pas trop bien quoi faire dans la vie. Il a décidé de faire chanteur après avoir été voir Jim Morrison en concert.
Oui, oui.
Il m'a dit, ouais, ça, je peux le faire. C'est important, quoi. Donc, moi, Jim Morrison, j'aurais pas pu le faire, quoi. Je veux dire,
oui, c'était quand même impressionnant, Jim Morrison.
Il fallait savoir chanter, déjà. Ouais. Lou Reed, non, pas...
Le rock, c'est votre culture ?
Ah bah oui. Oui, enfin bon, je me suis mis relativement tôt à la musique classique, quand même. Enfin, bien après le rock, quand même. Pour moi, une sortie qui valait le coup, c'était d'aller à un concert, quoi. C'était pas d'aller au cinéma. Oui, j'étais prêt à faire des kilomètres pour aller à un concert, oui.
Et là, comment vous envisagez la scène ? Puisqu'il va y avoir des dates à la Scala, il va y avoir une tournée ?
Pour l'instant, avec terreur. Non, mais vraiment, hein.
Vous l'avez déjà fait, pourtant.
Oui, mais ça fait longtemps, quand même. Ça fait 2000, ça y est longtemps, je veux dire. Donc c'est vrai que pour l'instant, j'ai peur, oui.
Et vous, Frédéric, comment vous l'envisagez, la scène ?
Je crois que c'est R qui disait ça. En studio, on fait ce qu'on veut, et sur scène, on fait ce qu'on peut. Et j'aime bien ça. Je veux dire, moi, j'ai vraiment aimé l'afterpunk, c'est-à-dire qu'on... On est sur scène et on fait... c'est une expression, il peut y avoir des erreurs, ça peut être fragile. C'est pas grave, en fait, c'est justement... moi, en tant que spectateur, c'est ce qui me plaît.
1972, Lou Reed publie l'album Transformer, où figure Perfect Day.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. I'm glad I spent it with you.
just keep me hanging on. You're going to read just what you saw.
Michel Houellebecq et le musicien Frédéric Lowe sont dans Totémique. Le disque dont Michel Houellebecq a écrit les textes et Frédéric Lowe les musiques s'intitule « Souvenez-vous de l'homme ». Et il y est question de la disparition de l'humanité. Pour en éclairer les textes et leur inspiration, Michel Houellebecq a sorti de son sac à dos un livre ancien à la couverture toilée.
Alors ça, c'est la seule chose où j'ai fait, je suis assez satisfait. J'ai prévu sur la fin de m'expliquer, de lire un texte qui va m'expliquer.
Vous voulez pas le dire maintenant ?
Si, je peux. Parce que c'est vrai que je comprends que quand j'en parle, on ne comprenne pas bien. Et c'est normal parce que c'est difficile à comprendre, quoi. Donc c'est un livre qui m'a énormément frappé quand j'avais 14 ans, je crois. Enfin, je me souviens en fait précisément du moment. Ça s'appelle « Demain les chiens » de Clifford Simak. Bon, le titre est bon, mais en fait, c'est pas le titre original. Le titre original, c'est « City ».
Pour resituer, « Demain les chiens » est un recueil de nouvelles de science-fiction de l'auteur américain Clifford Simak, publié en 1952. Un chef-d'œuvre de l'ASF, composé de 8 contes que se racontent les chiens.
C'est marqué 2 minutes, hein, j'essaie de tenir en 2 minutes. Alors, c'est un extrait d'une introduction qui s'appelle « Note de l'éditeur ». Bon, qui est une fausse note de l'éditeur, évidemment, c'est l'auteur qui l'a écrit. Donc j'y vais. Voici les récits que racontent les chiens quand le feu brûle clair dans l'âtre et que le vent souffle énorme. La famille alors fait cercle autour du feu. Les jeunes chiots écoutent sans maudire. Et quand l'histoire est finie, posent main de questions. Qu'est-ce que c'est que l'homme ? Demande-t-il. Ou bien qu'est-ce que c'est qu'une cité ? Ou encore qu'est-ce que c'est que la guerre ? On ne peut donner à ces questions de réponses catégoriques. Les hypothèses ne manquent pas, ni les théories, ni les suppositions les mieux fondées. Mais rien de tout cela ne constitue véritablement une réponse. La première question qui se pose, en effet, c'est de savoir si cette créature appelée l'homme a jamais existé. Dans l'état actuel où la question est devant l'absence de preuves positives, l'opinion généralement admise est qu'il n'a pas existé et que l'homme, tel qu'il apparaît dans la légende, n'est qu'une création de l'imagination populaire. Peut-être l'homme est-il apparu à l'aube de la culture canine comme un être mythique, une sorte de dieu racial dont les chiens pouvaient invoquer l'assistance. Voilà, bon. Le fait que l'homme puisse être envisagé comme une hypothèse, quand j'avais 14 ans, ça m'a produit un effet, mais vraiment, j'ai l'impression de planer dans l'atmosphère, quoi, pour avoir lu ça. Donc, c'est quelque chose que j'ai recherché, enfin, c'est même pas vraiment que l'homme a disparu, c'est qu'on n'est même pas certain qu'il existait, quoi, en fait, c'est ça l'idée. J'imagine que les gens aient un doute plus tard, enfin, les gens, les successeurs, quoi, et un doute sur le fait que l'homme existait.
Quels sont les successeurs ?
Ça, j'en sais rien.
Vous supposez que l'homme va disparaître et qu'il y aura des successeurs ?
Oui, je suppose.
C'est ce que raconte le disque aussi.
Oui, c'est ce que raconte le disque. Oui, je suppose ça, ça me paraît le plus vraisemblable, qu'il y aura des successeurs. Il se peut que l'homme, ça finisse mal, comme expérience, mais je pense pas qu'il détruira toute vie après lui, quoi.
Et c'est cette ambiance-là que vous souhaitiez ?
Dans une partie du disque, en tout cas, la partie la plus apparentée science-fiction, disons.
Et l'autre partie, alors ?
Eh ben, c'est, alors là, ça semble indiquer qu'il y ait qui est un homme et qui est, mais qui soit pris dans une espèce de guerre peu compréhensible, sans savoir qui exactement se bat. Enfin...
Oui, parce qu'il y a des « il y a des « nous »,
oui,
il y a un « je ».
Mais bon, ça, c'est typique de la poésie, c'est un peu agrammatical, quoi. On se rend compte, quand on en écrit, que qu'on mette « je », « tu », « il » ou « nous », ça revient à peu près au même, en fait. C'est surtout ce côté « voir l'humanité d'ailleurs », c'est pour ça que je citais le passage de Clifford Simak, qui est très présent dans les particules élémentaires et encore plus impossible d'une île, et qui est en fait, à mon avis, enfin, c'est, je suis obligé de dire du bien de moi, enfin, c'est, à mon avis, c'est parmi ce que j'ai réussi le mieux dans ma carrière d'auteur. Quoi.
D'annoncer dans l'un et l'autre une forme de post-humanité, si on peut dire.
Une forme de post-humanité, oui.
Il est question de clonage à travers toute une génération de Daniel dans La possibilité d'une île. Le roman commence donc avec Daniel 1, il est humoriste, et 24 autres Daniel clonés lui succèdent. Le 24e est un néo-humain qui déclare « Étant génétiquement issu de Daniel 1, j'ai bien entendu les mêmes traits, le même visage, la plupart de nos mimiques même sont semblables, quoique les miennes, vivant dans un environnement non social, soient naturellement plus limitées. Mais cette subite distorsion expressive, accompagnée de gloussements caractéristiques, qu'il appelait le rire, il m'est impossible de l'imiter. Il m'est impossible d'en imaginer le mécanisme. Plusieurs travaux ont été produits sur la disparition du rire chez les néo-humains. Tous s'accordent à reconnaître qu'elle fut rapide.
C'était une grande littérature, la science-fiction, pour moi. C'est vrai qu'à part... des classiques, ça, j'en ai beaucoup lu. Je lisais assez peu, mais les auteurs français de mon époque, en fait. Je lisais plus des auteurs américains de science-fiction.
Mais là, par exemple, dans le disque, vous concevez la fin de l'Occident.
Oui, puis c'est l'humanité aussi, à vrai dire. Enfin, la fin de l'Occident, c'est presque un détail. On ne sait pas très bien la fin de quoi, d'ailleurs, au fond. Je maintiens un flou. Parce que c'est une sensation qui m'intéresse beaucoup. Il se passe quelque chose, éventuellement quelque chose de grave, mais on ne comprend pas quoi exactement.
Comme vous avez assisté à l'entretien, Frédéric, est-ce que vous avez une question qui vous serait venue ou une question à adresser à Michel Houellebecq, Frédéric Lau?
Oui, je voudrais savoir au final qu'est-ce qu'il pense de notre album.
C'est toujours délicat, mais enfin, effectivement, je trouve qu'il est bon.
c'est pas... En même temps, vous pouviez pas dire autre chose, là.
Vous êtes en pleine promo,
vous êtes tous les deux...
Mais c'est un peu une blague aussi de poser ça.
Je suis content pour une autre raison, en fait, et qui est plus personnelle, qui est plus égoïste. C'est que ça met en valeur des textes de moi qui sont pas ce pourquoi je suis le plus connu. Des choses plus space, enfin plus...
Qui relèvent de la science-fiction,
oui,
parfois.
Oui, relèvent de la science-fiction, et c'est un truc auquel je suis revenu assez souvent, la science-fiction, mine de rien. Mais c'est pas surtout pour ça qu'on me connaît, quoi. Et donc je suis content que ces textes soient extraordinairement mis en valeur, quand même. Faut dire ce qu'il y a.
L'album « Souvenez-vous de l'homme » compte 12 chansons. Elles évoquent une post-humanité, l'apparition de nouvelles créatures, une guerre à l'Est et au milieu du disque, un texte intitulé « Le dialogue des machines ».
Avant, longtemps avant, il y a eu des êtres qui se mettaient en rond pour échapper aux loups et sentir leur chaleur. Ils devaient disparaître. Ils ressemblaient à nous. S'établira le dialogue des machines. L'informationnel remplira, triomphant, le cadavre vidé de la structure divine. Puis il fonctionnera jusqu'à la fin des temps.
Est-ce que, par exemple, vous intéressez au débat qui concerne, par exemple, l'intelligence artificielle ou... Est-ce que c'est un sujet qui a infusé dans les textes, par exemple?
Alors ça, très probablement, oui. Ça m'impressionne. Les réalisations récentes de l'intelligence artificielle m'impressionnent, oui.
Vous y avez recours ?
Non. Enfin, recours juste pour m'amuser, quoi.
Vous êtes amusé à quoi ?
Qu'est-ce qu'a eu l'idée ?
C'est moi, je crois, qui ai eu l'idée. En fait, comme ça, j'ai voulu regarder ce que l'IA pouvait imaginer notre rencontre.
Et vous avez demandé à l'IA d'imaginer
notre rencontre.
La rencontre entre Frédéric Lowe et Michel Houellebecq.
Tout à fait. Je l'ai fait lire à Michel, ça nous a beaucoup amusé. Donc on a continué à lui poser des questions. Et on a toute une rencontre imaginée par l'IA. C'était assez drôle.
Alors ça disait quoi ?
C'est aussi une histoire, hein. Il y a plein de pages. Au début, on est dans un café, je crois. Après, une phrase qui m'avait bien plu, je mettrai des mots sur vos ruines ou un truc.
Oui, c'est ça.
Enfin, il se lançait dans la poésie, quoi, l'IA. Enfin, il osait. Mais le résultat était pas inintéressant, quoi.
Oui, c'était la rencontre de deux solitudes.
Ah oui, 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 oui. Oui, il y avait des punchlines.
Des punchlines. Et c'était assez touchant aussi, en fait. Je crois que c'est la première fois où j'utilisais l'IA, où le résultat me touchait.
Ce qui est quand même extrêmement troublant.
Ah, c'est troublant, oui. Et donc, je me suis aperçu accessoirement que j'étais plutôt bien vu par ChatGPT, alors que je suis très mal vu par l'IAMA, si vous voulez.
Vous êtes très bien vu, c'est-à-dire ?
Bah, ça va, je suis un personnage un peu bizarre, mais plutôt sympathique.
Et l'autre, non ?
L'IAMA, non, il veut pas écrire à ma manière. C'est Antoine Gallimard qui avait demandé à l'IAMA d'écrire une chose à ma manière, et l'IAMA a carrément refusé. Parce que j'étais pas suffisamment inclusif. Bon.
Avant que ne paraisse son nouveau recueil de poèmes, d'ailleurs je me rends compte que j'ai commis une erreur en vous donnant le titre, parce que je vous ai dit que ça s'intitulait « Combat perdant », mais non. Le titre, c'est exact, c'est « Combat toujours perdant ». Avant que ne paraisse ce nouveau recueil de poèmes, donc, Michel Houellebecq a publié « Quelques mois dans ma vie », octobre 2022, mars 2023. Il y revient sur son expérience de tournage d'un film porno, dont il a tenté d'interdire la diffusion. Plusieurs journalistes sont désignés dans ce livre comme une meute de crétins médiatiques qui s'attachent à ses trousses. Il y exprime des regrets, des excuses concernant l'islam et les musulmans, et il écrit ceci. Non seulement on peut dire n'importe quoi dans un entretien oral, mais c'est souvent nécessaire de le faire, du moins pour certaines personnes qui ont besoin d'émettre des propositions extrêmes, voire contradictoires, avant de définir la leur, qui ont besoin, en quelque sorte, de commencer par explorer le champ des discours possibles. Je fais manifestement partie de ces personnes.
Oui, mais ça m'arrive de... Voilà, c'était particulièrement net, mais ça m'arrive de regretter certaines choses que j'ai dites, oui.
Dans quelques mois dans ma vie, vous dites aussi que vous faites partie de ceux qui aiment explorer les limites du discours. C'est toujours le cas aujourd'hui ?
Je me souviens plus de ce que j'ai voulu dire. Je suis désolé, cette phrase n'a aucun sens, je comprends pas.
Bah, le limite, c'est assez clair. Ce qui forcément est audible ou pas, acceptable ou non... Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris, oui, parce que vous avez tenu des propos qui étaient limites, comme on dit, plus
oui,
largement même.
Les limites de l'acceptable, oui, ça c'est vrai, mais bon. Moi, j'espérais que c'était plus intéressant ce que j'avais dit.
Mais peut-être que c'est moi qui le traduis mal.
Ouais, peut-être pas, non. J'ai l'impression que je voulais explorer ce qui est à peine discible. Dans la poésie, il y a ça quand même. Mettre des mots sur quelque chose qu'on peut absolument pas expliquer, quoi. Pour moi, c'est le sens intéressant des limites du discours, quoi.
C'est un autre enjeu.
C'est un autre enjeu, oui. Mais
là, ce dont vous parlez, c'est un enjeu artistique, c'est un enjeu créatif. Mmh. Dans les limites, je parlais d'un enjeu politique.
Oui. Oui. Bon, ça, c'est pas si intéressant, en fait. En réalité, de quoi j'ai été qualifié, je sais pas.
Quelqu'un qui provoque des discours.
Provocateur, ça me plaît qu'à moitié, quoi. Et disons, bon, c'est peut-être vrai, mais alors c'est parce que le niveau de tolérance a beaucoup baissé, quoi, par rapport à celui que j'ai connu dans ma jeunesse. Quand j'étais jeune, on pouvait dire à peu près n'importe quoi, en fait, tout passait. Là, j'ai l'impression que plus rien ne passe pour le moment.
Le fameux « on ne peut plus rien dire
ben, ». C'est pas faux. Ben, si vous regardez une émission des années 70 et une de maintenant, ça vous saute aux yeux.
Vous le regrettez ?
Oui. Oui, je le regrette. Enfin, ça ne m'arrange pas, si vous voulez. Parce que j'ai gardé les habitudes que j'avais quand j'étais jeune, quoi, donc ça passe plus trop.
Et est-ce que vous concevez que certains propos de cette époque puissent choquer aujourd'hui ? Vous estimez que c'est légitime ou pas ?
Bah, je le constate.
Mais ça, vous répondez pas à ma question.
J'aurais tendance à dire non, c'est pas légitime, en fait.
Pour quelle raison ?
Je sais pas, un truc genre liberté d'expression, oui, des choses comme ça. Mais...
Le personnage, parce que c'est de ça dont il s'agit aussi, qui s'est dessiné, comment vous le décririez et de quelle façon vous le tenez à distance ?
Bon, alors j'ai souvent été choqué d'être considéré comme cynique alors que j'ai l'impression d'être l'inverse absolu. J'ai l'impression de ne pas être cynique du tout. C'est embêtant, mais je ne sais pas comment faire.
Comment rectifier ça ?
Comment rectifier ça, oui.
En dehors du cynisme, est-ce qu'il y a d'autres étiquettes, si je puis dire, dans lesquelles vous vous sentez enfermé ?
Pendant assez longtemps, je me trouvais un peu trop gainsbourgisé, quoi. Puis, je sais pas, sale, quoi. Je fais des efforts pour rester propre. Comme disent les clochards. Mais c'est vrai que j'y arrive pas trop, quoi. Donc, mais ça
vous arrivez pas trop à quoi ?
Rester propre. Enfin, je veux dire, j'ai du mal avec les... Je sais pas, là, c'est pas terrible, quoi. Enfin, heureusement, on n'est pas à la télé, sinon j'aurais fait un effort. Donc oui, ça me déplaisait pas mal aussi. Et ça complète assez bien l'étiquette cynique. Ouais.
Le personnage médiatique de Michel Houellebecq est devenu un personnage de fiction dans plusieurs longs métrages. La plupart du temps, Michel Houellebecq interprète Michel Houellebecq, comme s'il lui attribuait un autre nom que le sien, même dans une fiction, ne serait pas crédible de toute façon. En 2014, Guillaume Niclou tourne un téléfilm dont le titre dit tout, ou presque, L'enlèvement de Michel Houellebecq. L'écrivain y est kidnappé par une bande de pieds nickelés.
Mais t'as un frère, il est diplomate, on le sait tous. On s'est renseigné.
Non,
c'est... Non, Michel.
Mais vous êtes renseigné comment ?
T'es un personnage public.
Non, mais... Mais tout est faux.
Mais si t'avais une sœur, on le saurait.
Tout est faux dans la biographie. Bref...
Est-ce que t'as mis le cendrier, là, parce qu'il va cramer le n'importe
quoi ? C'est comme si tu croyais que les journalistes disent la vérité, quoi. Moi, j'ai une sœur. Et je veux l'appeler.
Comment elle s'appelle ?
Catherine.
Michel, très honnêtement, est-ce que vous pensez qu'on est quatre imbéciles à table et qu'on va vous laisser appeler votre sœur ?
Moi, c'est pour ça que je m'excuse d'insister, mais qui peut payer pour moi ?
Il flottait dans la nuit près d'un astre innocent, observant la naissance du monde. Ils venaient de très loin, ils avaient tout leur temps. Ils n'avaient pas vraiment d'idée sur l'avenir. Ils voyaient le tourment, le manque et le désir s'installer sur la terre, au milieu des vivants. Ils connaissaient la guerre, ils chevauchaient le vent.
Vous avez commencé par la poésie, en fait.
Je pense que j'étais plus doué pour ça au départ. Écrire un roman, ça me paraissait une entreprise, c'est d'ailleurs pas faux, épuisante. J'étais pas sûr de pouvoir mener à bien, quoi. Non, mais honnêtement, les romans, moi, j'en ai lu énormément, important. C'est d'ailleurs pour ça, peut-être ça le problème, en fait. Mais ça me paraissait un peu écrasant, quoi. Même quand j'y repense, maintenant, ça me paraît toujours écrasant.
L'histoire même de la littérature.
Ah oui, il y a trop de choses, quoi. Il y a trop de choses bonnes. Enfin, c'est écrasant. Le poids culturel est écrasant.
Mais ça peut aussi donner énormément d'ambition.
Oui, enfin, ça fait peur, déjà. Ça fait surtout peur, quoi.
Alors, qu'est-ce qui vous a donné du courage pour le faire ?
Non, ce qui m'y a décidé, c'est que Extension humaine de la lutte. Et je me suis aperçu que le milieu professionnel dans lequel j'évoluais était peu décrit. J'avais l'impression que la société de services informatiques, j'avais un truc qui n'avait pas été traité. un sujet nouveau de l'époque, quoi. Je me suis dit, ouais, je vais essayer d'écrire quelque chose là-dessus. Il n'y a pas ça chez Balzac. Enfin, bon, jamais, vous voyez, c'était le fait que le sujet était nouveau.
Et alors le second, parce qu'il y a le deuxième roman. Ben,
voilà, ça c'est... En fait, on écrit un... Moi, j'écris le second parce que je trouvais des faiblesses au premier. Si, je veux faire mieux, quand même.
Et de livre en livre, ça a toujours été le moteur, de vouloir faire mieux ?
Et oui, alors on trouve toujours des trucs qui ne vont pas et on continue. On trouve toujours des trucs qui ne vont pas. Il y a des choses que je n'ai pas traitées, si vous voulez. Je suis jamais vraiment revenu sur la période d'adolescence, au fond. Je ne parle pas du point de vue autobiographique, hein, ce n'est pas ça le sujet, mais sur ce que ça représente dans une vie. Bon, la fin de vie, ça va, j'ai bien traité. Le début de la vie adulte, je n'ai pas vraiment traité ça. Je crois pas. Il y a un manque quelque part.
Vous ne l'avez pas traité, mais qu'il s'agisse du cinéma, du rock'n'roll ou de la littérature, l'adolescence, il en est beaucoup question.
Littérature, pas tant que ça. Hein. Pas tant que ça. Ouais, citez-moi un truc. Vraiment.
L'attrape-cœur.
Ah, j'ai pas lu. C'est de qui ça ?
Salinger.
Ah oui, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent, mais j'ai jamais réussi à rentrer dedans. En fait, je suis désolé. Je n'aurais pas à dire ça, d'ailleurs. Il y a des livres qu'on est censé aimer, qu'on le veuille ou non. Quoi.
Vous estimez qu'il y a des livres qu'on est censé aimer hein?
Bah oui, il y a des trucs, oui, on est censé trouver ça très bien, ouais. Même si on ne pense pas tant que ça. Ça m'emmerde, en fait.
Est-ce que la poésie exclut certains sujets?
J'ai bien peur que oui. J'aimerais mieux que... Non, mais j'ai bien peur que oui.
Pourquoi ?
J'en sais rien. C'est très, très difficile de parler d'argent, la poésie, par exemple. Alors que dans le roman, c'est tout à fait bienvenu. Non, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas le même sujet.
Et est-ce que la poésie, le fait d'avoir commencé par la poésie et de continuer à la pratiquer, comment ça a nourri votre écriture romanesque ?
Il y a des différences sur les auteurs, mais je pense faire plutôt partie des auteurs qui lisent leurs textes à voix haute. Pas forcément à voix haute, d'ailleurs, on n'a pas besoin de lire à voix haute. Il suffit de marmonner, l'entendre dans sa tête. Mais j'ai besoin d'entendre mon texte, même dans le cas des romans. Et là aussi, je donne raison à l'oral. Quand je marmonne quelque chose qui n'est pas ce qui est écrit, je change ce qui est écrit.
Comment vous êtes-vous mis à lire, Michel Houellebecq ?
Je ne me souviens même pas d'une période de ma vie où je n'ai pas lu. Ça a dû exister, hein, mais je me revois toujours avec un livre. Aussi longtemps, aussi loin que je me souvienne, j'ai tout de suite aimé ça, quoi.
Et vous ne vous souvenez pas comment ça a commencé ?
Alors si, j'ai fini par me souvenir que le premier qui m'est frappé, c'est probablement les contes d'Andersen. Mais là, je pense que j'avais 6 ans quand j'ai lu ça, enfin, ou 7. Il y en a certains que je ne comprenais pas, d'ailleurs, mais... Tout de suite trouver ça beau.
Est-ce que quand vous écrivez de la poésie, il vous arrive de ne pas comprendre ce que vous écrivez ?
Ah oui, ça je m'y suis fait, hein. C'est pas grave.
Ça c'est pas possible dans un roman, j'imagine.
Alors si c'est possible, si dans les particulièrementaires il y a des passages assez incompréhensibles. Si ça sonne bien, même si je comprends pas, je laisse quoi.
Et vous lisez sur écran ou vous lisez sur papier ?
Ah non, sur papier, toujours.
Parce que l'objet livre représente quoi pour nous ?
C'est un objet pour lequel j'ai de l'affection, que j'aurais jamais pour un écran, pour un fichier.
Ou même pour un disque ?
Si, j'ai eu de l'affection pour des disques, beaucoup même. Mais si vous voulez un disque, c'est pas pareil. Un livre, moi je sais pas, par exemple... Même pour aller faire la queue au supermarché, s'il y a une queue, je prends un livre, quoi. Même si c'est pour 2 minutes de queue. On l'a avec soi, enfin, c'est une sécurité d'avoir un livre.
Une sécurité ?
Ah oui, sinon on est livré à la vie, enfin, c'est horrible. Avec un livre, on a toujours une échappatoire.
Vous lisez de la littérature contemporaine ?
Ah oui. Oui, je lis ce qu'on m'envoie, en fait.
Ouais. C'est comme si vous ne choisissiez pas.
Ben, j'aime bien ne pas choisir, ouais, lire ce qu'on m'envoie. Je lis même des manuscrits, ça m'arrive. Enfin, J'aurais peut-être pas dû dire ça parce que je vais peut-être recevoir davantage, mais. Vous couperez ça. Mais oui, oui, je lis.
Et quand est-ce que vous écrivez ?
Et alors, ça s'est un peu diversifié ces derniers temps, mais pendant très longtemps, c'était uniquement quand je me réveillais, au milieu de la nuit, quoi.
Pour quelle raison, le fait d'être réveillé, enfin, le réveil crée quel type d'état propice ?
Parce qu'on n'est pas tout à fait réveillé, justement.
Ah, il faut être dans un état de semi-conscience pour se mettre à écrire ?
Voilà, c'est l'idéal. Oui, oui, ça, c'est... Ben, il y a des gens à l'écoute, là, forcément.
Oui.
S'il y a un conseil à donner aux gens qui veulent écrire, mais c'est mon principal. Faire confiance, cet état où on est encore un petit peu dans le rêve, pas tout à fait conscient. C'est là que des choses intéressantes se produisent.
Quand on ne maîtrise pas totalement, alors ?
Ah oui, oui, il faut ne pas maîtriser totalement, oui. Bon, de toute façon, on peut se relire, quoi, c'est le principe. Donc si ça ne va pas, ben, on peut changer, mais... Pour que quelque chose se produise, il vaut mieux être semi-conscient. Et par contre, l'alcool, ça marche pas.
Pourtant, ça crée aussi un état de demi-conscience.
Bah oui, mais je sais pas pourquoi, c'est pas bon ce qui sort. J'ai essayé, hein, mais ça donne de mauvais résultats.
Alors, vous avez arrêté de boire ?
Non, j'ai pas arrêté de boire, mais je sais que si j'écris en état d'ébriété, ça va pas être bon, quoi.
On a rooftop, smoking blue dream on my Kama Sutra. Life is but a dream for a dark skinned bitch like me. Life gets dark when you're dark like me. Times get hard with a heart this big. Mouths get fed when your ass this thick. Count my sheep, then I catch my Z's. I don't read y'all tweets, I delete y'all threads. Don't need weed to be 10 feet tall. I don't need keys when I knock down walls. Been pushing peace since bathroom stalls. Why sell my soul when I know I'm God? I be in the bag levitating, doing meditation. Need me girl, keto. Taking on all confrontation. Fuck a limitation. Need me girl, keto. Somewhere I know that everything is mine. All that industry plant shit whack. I see it on the blogs, I see you in the chats. You suck every rap nigga dick from the back. But what's the agenda when the it girl black? Y'all can't fathom that I worked this hard. And y'all can't fathom that I earned this chart. Y'all can't stand my vibe cause I'm anointed. All y'all evil assholes just annoying. Blame it on the fame, blame it on the coke. Blame it on the douce, got you feeling low. Y'all wanna believe I'm on drugs and forsaken. They won't credit me so they blame it on Satan. Blame it on my label, blame it on my team. End of the day, everything is on me. Miss Bag Lady, Little Messiah, Little Miss Higher, them hoes, then fire them. I be in the bag, levitating, doing meditation. Need me girl, keto. Taking on all confrontation. Fuck a limitation. Need me girl, keto. Somehow I know that all, everything is mine. Mine. They calling me the intellect amongst the pussy rap. I still be popping pussy to my sister, so I can't agree with that. These niggas misogynistic, I'll address it on the album. For now, let's sink into the fact that hate don't make you powerful. Y'all monitoring spirits, go monitor that checkbook. Fashion week was radical, diamonds what my neck took. Tried to turn the other cheek, but y'all just too damn extra. I had to take it to the stew and show these niggas pressure. Father, forgive them, they gon' be hurt when I deliver. The album's 6 months old and need a fucking babysitter. I did 8 years of failing, plus a lot of cold winners. Used to be a starving artist, now I want the whole dinner. Bitch, I want my things. Nissan to a Bentley Coupe, fuck you mean. Got a cosign from K-Dot. She's baby king. God keep me from the bitterness. Help me reach the masses. All the black women gon' fit this shit. I be in the bag levitating, doing meditation. Need me girl, keto. Taking on all confrontation. Fuck a limitation. Need me girl, keto. Somehow I know.
Le morceau Girl Get Up par un duo de filles, Doshi et Sisa, avant la suite de Totemic avec Michel Houellebecq et le musicien Frédéric Lau. Il était question d'un tube.
Ah oui.
De choisir un tube. Finalement, vous ne l'avez pas vraiment choisi.
Les tubes. Il y en a beaucoup qui m'ont plu, vraiment beaucoup. C'est quand même impossible de choisir. Alors par contre, il y en a un qui correspond à un moment précis de ma vie, effectivement, bon, c'est un moment. Sauf que je refuse absolument de raconter le moment, quoi. Mais je peux parler du YouTube, par contre, mais le moment, non. Et là, oui, effectivement, bon, allons-y, c'est « J'ai encore rêvé d'elle », du groupe « Il était une fois ». Par ailleurs, c'est une belle chanson, hein, dépendamment du souvenir, surtout sur la fin. Les duos hommes-femmes, c'est pas si fréquent, et la plupart, je les aime pas trop. Ça met en scène genre une star blasée, quoi. Genre Alain Delon, mettons, par exemple. Alors que là, non, c'est un vrai duo sur la fin. Alors surtout, passer la fin. Il y a quelque chose d'étonnant dans la fin de ce duo, qui ressemble à aucune autre chanson que je vois.
Ça évoque quel souvenir? Ça, vous voulez pas le dire?
Non.
Pourquoi? Parce que c'est pas, parce que c'est impudique, parce que c'est inavouable, parce que.
Non, ça regarde personne.
Moi, je voulais vous soumettre un autre titre.
Mm-hmm. I'm Not in Love du groupe 10cc, morceau qui figure dans Extension du domaine de la lutte, premier roman Michel Houellebecq.
Just a silly phase I'm going through. And just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made.
Je qualifie carrément de plus beau slow de tous les temps dans le livre, ce que je continue à penser d'ailleurs.
Pour quelle raison? C'est quand même un gars qui, effectivement, pendant plus de 3 minutes, répète qu'il n'est pas amoureux,
oui,
qui dit à la fille...
Ah, excellente question. C'est un des trucs les plus beaux qu'on peut faire, c'est la dénégation. C'est-à-dire, il dit « I'm not in love » et tout dit l'inverse. Tout dit le contraire. Et ça, c'est beau.
La musique, elle joue un rôle dans l'écriture?
Non. Non, j'écoute rien quand j'écris. Je regarde rien non plus, d'ailleurs. C'est très mental, quoi. Enfin,
Les images ne comptent pas?
Non, j'écris en face d'un mur nu.
Et quand vous écoutez de la musique, est-ce que vous pouvez faire autre chose?
Non. Non, ça me surprend toujours. Quand les gens courent, par exemple, en écoutant de la musique, enfin, je trouve ça stupéfiant. Moi, ça occupe la totalité de mon cerveau, quand j'écoute de la musique, il n'y a pas de place pour une autre activité.
J'aimerais terminer en vous demandant qu'est-ce que ça signifiait la reconnaissance? Est-ce que ça compte? Et si oui, quelle serait la plus importante pour vous?
Oui, ça compte, oui. Mais si vous voulez, il y a plus de différence entre zéro lecteur et un qu'entre un lecteur et 100 000, quoi. J'ai jamais dit que j'écrivais pour moi, en fait. J'écris pour les autres, quand même. Et donc, la reconnaissance compte, quoi, de savoir qu'il y a un... Enfin, oui, ça compte.
Avez-vous écrit pour quelqu'un en particulier?
Alors, ça m'arrive, oui, par moments. Pas toujours la même personne, d'ailleurs, mais d'écrire certains... On s'imagine un lecteur idéal, en fait, quand même. Et parfois, de certains passages, il y a quelqu'un. Qu'on imagine être le lecteur idéal, oui.
Ce serait quoi le lecteur idéal?
C'est la personne que ça va bouleverser, que ça va. Et parfois c'est quelqu'un de précis.
Et c'est ce qui peut influencer ou guider l'écriture ?
C'est ce qui rend content de soi, en tout cas. De penser que ce passage-là va vraiment bouleverser quelqu'un de précis.
La toute dernière chose, normalement, qui fait partie de l'émission, c'est une séance photo avec un Polaroid. Vous êtes d'accord ?
Bien sûr.
Je propose qu'on la fasse devant la photo qui est au mur, là, d'un homme entre deux plongeoires et qui donne l'impression de faire de la voltige. Voilà, on va juste attendre qu'elle se développe.
Oh, déjà, là, c'est vrai, on nous reconnaît, là.
Vous ressemblez à qui ?
À mon père. Beaucoup. Mais je sais pas, je l'ai pas connu enfant, quoi. Oui, pareil, je vous ressemble à mon père. Hein.
Ah oui. C'est bien nous.
Ça vous va ?
Oui, très bien.
Et ben voilà.
Combat toujours perdant, c'est le titre du nouveau recueil de poèmes de Michel Houellebecq publié chez Flammarion. Souvenez-vous de l'homme est le titre de l'album qu'il a conçu avec Frédéric Lau. Ils seront en concert à la Scala à Paris du 8 avril au 7 mai, les mercredis et jeudis, avant une tournée ailleurs en France. Stéphane Le Guenec réalise Totémique et ce matin c'était avec Pauline Laverdure et Jérôme Ragano. Perrine Malinge programme nos invités, Ilinka Negulesco trouve les sons et la documentation et JB Audibert choisit nos disques. La semaine prochaine, je vous propose la réécoute d'une rencontre avec Jodie Foster avant un rendez-vous la semaine suivante dans un studio avec Eric Cantona.